Et en 2020, et si la fontaine causait jargon, je veux dire argot, qu'est-ce qu'on y entraverait? C'est un peu ouf, mais c'est juste histoire de faire les poches du français besbège et de rendre hommage à ces barbouilleurs de génie. Balèze, non?
De vive voix.
Pascal Paradou.
Bon voilà, je me suis lâché, mais ce sont mes invités qui m'y poussent aujourd'hui, car ils osent, je dis bien oser, traduire La Fontaine, Charles Perrault et quelques autres en argot. Bonjour Sonia Perbal.
Bonjour.
Bonjour Christophe Brichand.
Bonjour.
Il fallait bien être deux pour se lancer dans cette entreprise, car je trouve qu'il y a un petit côté gang de malfaiteurs à vouloir ainsi déboulonner quelques écrivains si haut placés dans le panthéon de la littérature en français.
Ah oui, tout à fait. Et c'est même un compliment, puisque pour prétendre parler argot, il faut avoir quelque chose d'un malfaiteur.
C'est vrai ?
Oui, bien entendu, puisque l'argot trouve son origine, évidemment, dans le langage des brigands, le langage secret des voleurs.
Alors, dans votre ouvrage « La cocotte au golden coco », soit la poule aux œufs d'or, vous avez traduit des fables de La Fontaine, mais aussi du grec Ésope, donc on est là dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, ou du romain Phèdre, là on est au début de notre ère. C'est une histoire de filiation ?
En réalité, Ésope est vraiment le fondateur de la fable. C'est un fabuleux fabuliste, et pour cause, il a marqué l'essentiel de la littérature, et tous les successeurs s'en sont inspirés et ont eu une dette envers lui. Une dette d'ailleurs qui est assez amusante, puisque Phèdre, par exemple, ne cesse dans ses premières fables de louer Ésope, et petit à petit, il s'en éloigne, il s'en écarte, ou plutôt il prend une distance critique, et à la fin il dit bah, « je mérite finalement bien une statue comme Ésope ».
Et Jean de La Fontaine se réfère très explicitement, en reprenant vraiment les mêmes thèmes et les mêmes titres de Phèdre ou de Ésope.
Exactement, Jean de La Fontaine va utiliser tout le matériau, enfin une grande partie du matériau d'Ésope, en s'inspirant aussi d'autres fabulistes qui ont succédé à Ésope, qui se sont déjà inspirés d'Ésope, comme Phèdre et puis encore bien d'autres. La Fontaine n'hésitera pas, évidemment, à, comme c'était le cas au XVIIe siècle, à s'inspirer, évidemment, des Grecs et des Latins.
Mais ça ne s'arrête pas avec Jean de La Fontaine, parce que dans ce livre, La cocotte au golden coco, vous traduisez aussi Jean-Pierre Clarisse de Florian. Donc
ah oui.
Là, on est au XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, il y avait un très, très grand fabuliste qui, malheureusement, est un peu oublié. Et qui a créé de merveilleuses fables et aussi des citations comme Plaisir d'amour ne dure guère. Les gens connaissent Clarisse sans le savoir.
Alors donc, en traduisant en argot, tous les deux, est-ce que vous vous inscrivez dans cette lignée d'adapter finalement des textes très connus à une époque contemporaine et de retrouver aussi une forme de tradition orale, puisque la fable, elle est là pour être dite, Sonia Perbal?
Oui, enfin, au départ, l'idée est venue, c'est une idée de Christophe, au départ, qui a proposé une traduction de Blanche-Neige en argot, et je crois qu'au départ, c'était plutôt de l'amusement. Il n'y avait pas de recherche particulière, il a voulu s'amuser, et puis les éditions de L'Opportun nous ont fait confiance et nous ont commandé des fables et des contes, et ça a dépassé tout ce que nous avions prévu de faire.
Et vous êtes pris au jeu, donc?
Ah oui, complètement. Oui.
Complètement. au début de votre ouvrage, parce que c'est pour s'amuser, dites-vous, mais c'est quand même un ouvrage assez sérieux, vous revenez à l'origine du mot « fable », qui a à voir avec la parole.
Oui, tout à fait, puisque la fable s'enracine directement dans le langage et dans la capacité du langage à imaginer et à imager ce qu'il représente.
Oui, fable, ça vient de parler par un effet
oui,
de détournement étymologique. Pourquoi on appelle l'argot la langue verte ?
Je pense que ça doit être lié au caractère un peu cru, un peu vert du langage argotique.
Oui, parce qu'en principe, quand on dit c'est vert, ça veut dire que c'est un peu vulgaire. Hein, on est dans cette idée-là. Sonia Perbal, Christophe Bréchamp, vous allez nous lire votre version des fables de La Fontaine, mais on va faire durer un petit peu le suspense avec la complicité de Renaud.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, les pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Laisse béton, Renaud, sur RFI. Alors, est-ce que c'est de l'argot ou du verlan? Je m'adresse au linguiste Christophe Bréchamp.
Alors, il y a pas mal de verlan, évidemment, chez Renaud. C'est un peu sa marque de fabrique. Mais néanmoins, il y a aussi de l'argot. Et je crois qu'il est souvent difficile de faire le départ entre l'un et l'autre. Et souvent, les deux langages se mêlent. Et c'est pour tout le bonheur de l'enrichissement de la langue et de la langue verte.
Mais l'argot, c'est plein de choses. C'est à la fois des métaphores, des métonymies, des troncations. Enfin, il y a toutes les formes lexicales dans l'argot.
Oui, absolument. C'est ça qui rend cette langue si vivante et attachante, c'est qu'elle travaille précisément sur les figures de style et qu'elle s'enrichit sans cesse et qu'elle est par définition imagée et qu'elle représente donc le réel avec une force qui lui est propre et qui la rend séduisante.
Avec des emprunts un peu partout et à d'autres langues aussi.
Également, c'est l'intérêt, c'est aussi cette mixité permanente et ce métissage.
Alors on va passer aux exercices pratiques, si vous voulez bien. La cocotte au Golden Coco, c'est donc une fable de La Fontaine, pas forcément la plus connue, mais c'est celle qui donne le titre à votre ouvrage. Donc 35 contes et fables célèbres de notre enfance traduits en argot. Qui lit la version originale? C'est vous, toujours.
L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches.
Voilà donc la fable de La Fontaine, et voilà la version que vous nous proposez, Sonia Perbal.
La cocotte au Golden Coco. Un pignot farpagon, d'une connerie notoire, se croyant parangon du business agricole, tout persuadé d'être un mariole, se tira une balle dans le panard. Sorapia possédait un oiseau de basse-cour qui pondait un golden à Vergo chaque jour. Nul besoin de tic-tac, l'affaire était dans le sac. Dès le cocorico de son bécan macho, la femelle ovipare activait son pétard, d'où giclait sans calcif un œuf en or massif. S'imaginant au CAC 40, tel un Crésus cousu de rente, ce radin crut que la cocotte planquait un butin dans l'oignon. Il la buta, tel un couillon, et perdit grave sa culotte. Cette gallinacée était en tout kiff-kiff au mets dominical du fameux roi Henri. Le crétin tout fautif n'avait plus un radis. Pas la peine de péter plus haut que votre derche. Si vous avez la veine d'avoir des picaillons, en jouant au poker, vous risquez le bouillon et pourriez tout de go atterrir dans la dèche.
Dans ce cas-là, merci pour cette lecture formidable, dans ce cas-là, est-ce que vous dites traduire ou réécrire La Fontaine, Sonia Perval?
Alors, pour ce qui concerne cette fable, en fait, il y a eu traduction, mais il y a eu aussi enrichissement, il y a eu aussi créativité. Cette fable, en fait, La Fontaine s'est inspirée de deux fables d'Ésope pour écrire celle-ci. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de cette traduction, de sa création, il s'envole vers d'autres images, vers d'autres idées. Et là, c'est ce que j'ai fait dans cette fable-ci, en m'éloignant du texte et en racontant un petit peu quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ.
Oui, parce que le CAC 40, c'est pas tout à fait de l'argot, non. Et c'est pas tout à fait du XVIIe siècle.
Non, pas du tout. Non, non.
Mais là, est-ce que vous êtes autorisé cela avec bonheur ou en ayant le sentiment d'être un peu iconoclaste?
Avec bonheur. Au départ, c'était la traduction pure quand on a commencé le travail. Et petit à petit, c'est avec bonheur que les mots sont venus, qu'il y a eu une sorte d'élan, de dynamisme qui s'est installé et j'en riais moi-même.
Donc vous êtes bien dans la lignée là aussi de réécriture, puisque après tout, Jean La Fontaine réécrit Ésope et Phèdre et vous continuez.
Oui,
donc,
voilà.
Vous voyez, on en est bien là. Est-ce que tous les mots ont leur équivalent en argot?
Eh bien non, et c'est ça la difficulté, c'est que l'argot est une langue spécialisée, au fond, puisque c'est une langue de métier, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, et donc...
Ah oui, ça s'invente au XVIIIe siècle, l'argot?
Oui, même un petit peu avant, hein, même au XVIIe siècle, on commence à parler d'argot vraiment au XVIIe siècle, même si on trouve des traces de jargon dès le Moyen-Âge et dès le XIIIe siècle, qui est chez Rudebeuf et puis chez des grands poètes du Moyen-Âge. Mais disons que l'argot au XIXe siècle prend plus de poids.
Donc tous les mots n'existent pas en argot. Dans les traductions que vous faites des fables de La Fontaine, il y a par exemple beaucoup de noms d'animaux, ça c'est connu. Et il y a par exemple le rat et l'huître.
Oui.
Donc ça devient le Gaspard et l'huître. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalent pour huître.
C'est tout à fait ça. Il y a toute une série de mots et notamment d'animaux qui ne trouvent pas leur équivalent et c'est la raison pour laquelle on est obligé, et c'est ça tout l'intérêt et tout le sel de ce travail-là, d'inventer et de donner une modeste contribution à l'enrichissement de l'argot ce faisant.
Mais où avez-vous été chercher tous ces mots d'argot? Parce qu'on est à la radio, on ne vous voit pas, mais vous ressemblez pas tout à fait à des petits malfrats de banlieue, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Non. C'est toute une recherche à travers des dictionnaires qui fort heureusement existent et qui sont en nombre. Et c'est le fait de croiser avec tous ces dictionnaires en utilisant à la fois des dictionnaires qui datent du 19e, des dictionnaires qui datent du 20e et des plus récents encore, qui sont un peu plus au goût du jour et qui correspondent à la langue d'aujourd'hui.
Oui, donc il y a donc des degrés d'usage et de préciosité dans l'argot que vous proposez et que vous employez. Et si j'en reste au nom des animaux, bon, il y a le clébard, ça on voit bien ce que c'est le chien et on s'en sert à peu près tous les jours ou presque. Le Gaspard, quand je parlais de le rat et l'huître, le Gaspard, ça vient d'où? Moi, j'avais jamais entendu dire que un rat, c'est un Gaspard.
Oui, c'est un terme qui correspond à l'argot et je pense que ça doit dater de sans doute du 19e siècle.
Idem pour le loup, le péloué.
Ah, ça par contre ça ressemble beaucoup plus à du verlan puisque c'est un peu une aversion.
Et puis il y a l'aîné pour dire l'agneau. Ça c'est joli, c'est assez évident, le l'aîné, la laine de l'agneau. Donc il y a une saveur de l'argot, ce que tout lecteur de San Antonio connaît. En effet, sous ce pseudo, Frédéric Dard a publié plus de 200 titres dans l'immédiate après-guerre jusqu'à la fin des années 90.
Voyez-vous, j'ai fait une découverte à la faveur de ces bouquins, c'est que le public est avant tout sensible à un style. Et dans la littérature, je m'excuse de parler de littérature à propos de mes œuvres, enfin dans la littérature, même policière, le public recherche avant tout un style. Ça fait 300 ou 400 ans que tous les écrivains français écrivent de la même façon. Ils écrivent de la même façon, avec le même vocabulaire. Ils ont même peur de faire des enfants à la langue, vous comprenez?
Et vous, ça ne vous gêne pas d'être, disons,
à moi, au
parfois, je ne dirais pas vulgaire, mais de friser la vulgarité?
Ah, mais pas du tout, parce que je crois que ce qui compte avant tout, c'est une verve. C'est un ton. Et j'ai choisi d'aller vers le lecteur, de lui donner ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une verve, une truculence, cette espèce de chose effrénée, quoi, qu'on trouve dans ces bouquins. Alors, moi, ce que maintenant je veux faire, c'est précisément retrouver le pittoresque quotidien et le restituer en le caricaturant un peu.
Christophe Brichand, est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric Dard quand il parle du pittoresque de la langue à propos de l'argot?
Ah oui, totalement, définitivement, comme les Américains aiment à le dire. Oui, et je crois que un des précurseurs dans notre littérature a été Rabelais, qui a enrichi l'argot, utilisé l'argot qu'il connaissait, travaillé à la fois avec des mots techniques, des mots scientifiques, en les rendant communs et inversement, en élevant à la dignité de mots savants des mots communs. Non, il a vraiment travaillé la langue dans tous les sens.
Et est-ce que la question de la vulgarité, Sonia Perval, s'est posée en traduisant Jean de La Fontaine? Quand vous dites le derche, par exemple, c'est assez vulgaire.
Oui, c'est un petit peu... Oui, c'est grivois. Et aussi, quand elle pond sans calcif, un œuf en or massif. Je pense que c'est un clin d'œil qui était nécessaire aussi pour donner du piquant à cette fameuse, ces fameuses traductions, si je peux dire. Et puis, c'est un mot par ici, c'est un mot par là. Il ne s'agit pas d'une volonté de continuer dans ce style. C'est juste pour ponctuer d'un petit clin d'œil et puis que les gens s'amusent. Les gens s'amusent vraiment.
L'argot, c'est du français?
Oui. Pour moi, c'est du français. C'est du français... Oui, c'est du français de certaines catégories de personnes, des mendiants, des voleurs. C'était un français secret.
Oui, on se servait de l'argot souvent à l'origine pour coder un peu des messages.
Voilà, c'est ça.
Ou alors pour évoquer des sujets un peu tabous dans la société.
Voilà, les voleurs notamment. Oui.
Notamment les voleurs. C'est donc du français, Christophe Brichand, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus?
Ah oui, vraiment, c'est du français, même à la puissance 2 d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est dans notre langue une des parties les plus savoureuses.
Faire des enfants à la langue, dit Frédéric
Dard.
C'est magnifique,
oui,
quand même, comme formule. Oui. Alors, pour le plaisir, je voudrais qu'on vous entende dans une autre fable. Alors, il y en a beaucoup de La Fontaine dans votre livre, mais il y en a aussi de ce fameux Ésope qui est à l'origine de tout. Et le corbeau et le renard, par exemple, que tout le monde connaît, eh bien, il y a une version Ésope qui est absolument proche de celle de La Fontaine. On peut même dire que La Fontaine a fait un peu de plagiat.
Le corbeau et le renard. Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut, et voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le morceau, dit « Ô corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » Cette fable est une leçon pour les sots.
Version Ésope, et on constate qu'il y a une petite transmutation, la viande est devenue du fromage avec Jean de La Fontaine.
Exactement. Hein.
Est-ce
exactement.
Qu'on sait pourquoi?
Il a changé le menu.
Il a changé le menu. Alors, version argot.
Le corbac et le matois. Un corbac ayant axé un morceau de barbac s'était perché sur un coquard. Un nareux l'aborgna, et voulant mettre l'embargo sur la bidoche, il se planta devant lui, lui passa de la pommade et quelques coups de brosse à reluire, le baratinant un max et l'afistolant avec des bobards. Il lui bourra le mou en lui disant qu'il méritait d'être le dab des piafs et qu'il le serait devenu pour sûr s'il avait du clipet. L'aérogrec, histoire de se la jouer et lui montrer qu'il avait de la gueule et du sifflet, fit tourner la moulinette pour cracher une musicante et lâcha la carne. Le goupil déboula pile poil pour choper le morsif et dit « Oh, Corbac, si tu avais du plomb dans le carafon, si t'en avais dans le cigare, tu serais le dabuche des piafs et non le roi des jobards. » Cette bagoule est une leçon pour les hommes et les oiseaux de tout poil qui se font plumer.
Merci encore, version Ésope, le corbeau et le renard. C'est une bagoule, donc. Vous traduisez des fables en bagoule.
Oui, parce que là non plus, il n'y a pas de traduction exacte. Donc, une bagoule, ça veut dire en fait une histoire, une discussion, éventuellement.
Une discussion. Vous traduisez donc ces fables, vous traduisez aussi dans La Cocotte au Golden Coco les contes d'Andersen, des frères Grimm ou de Perrault. Et là aussi, il y a une découverte, comme on l'a fait avec les fabulistes, Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme. C'est qui ?
C'est une romancière. Je pense que Christophe la connaît mieux que moi parce que c'est lui qui
la connaît bien bien.
Oui. Enfin, écoutez, j'espère que non, il est déjà amoureux de Blanche-Neige. Alors on va pas...
Oui, en fait, Madame le Prince de Beaumont est une conteuse essentiellement qui, au XVIIIe siècle, va écrire bon nombre de contes pour les enfants et notamment un conte très fameux qui est La Belle et la Bête.
Qui a donné lieu à un film très célèbre. Et en effet, on connaît l'histoire, mais on connaît pas l'autrice de ce conte. Vous êtes donc amoureux de Blanche-Neige ?
Oui, oui, c'est de longue date et c'est une ancienne marotte. J'écris régulièrement en me référant à ce thème-là qui traverse un petit peu tout mon travail d'écriture.
Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à Blanche-Neige, dont le nom n'est pas traduit ? Vous n'avez pas trouvé d'équivalent argotique du nom de Blanche-Neige ?
Non, rien qui ne me satisfasse et qui rende sa beauté présente à travers son nom. Donc, et comme je suis amoureux, j'ai préféré la respecter dans ce domaine.
Donc les noms ne changent pas, Blanche-Neige reste Blanche-Neige. En revanche, la princesse devient une ripoise.
Oui.
En argot.
Oui, c'est ça. Et là, ça tombait bien puisqu'il s'agissait de la princesse et du petit pois. Et donc, ripoise et pois, ça jouait bien ensemble. Donc, j'ai forcément opté pour ce mot.
Une ripoise de l'antenne, pour sûr, c'est Lucie Bouteloup qui, toutes les semaines, tient chronique dans Deux Vives Voix. Et c'est La Puce.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Pascal.
Bonjour Lucie.
Et d'argot, eh bien il en est toujours question dans La Puce avec l'expression « se faire du mouron ». Une expression que vous connaissez sans doute, mais dont l'origine vous surprendra certainement. Pour nous en parler, Julien Soulier et aussi les élèves de Clio Baruch de l'école Forest à Paris. C'est parti.
Faire du mouron, peut-être que ça veut dire se faire du souci, parce que mouron, ça se rapproche de la mort, et donc on peut se faire du souci pour une personne qui est par exemple en train de mourir.
Se faire du mal, parce que ça ressemble un peu. C'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose et que c'est compliqué.
Par exemple, tu manges un truc pas très bien, tu deviens tout marron. Parce que dans mouron, ça me fait penser à marron, donc c'est comme si on devenait tout marron.
À mon avis, c'est comme si on était mou et on était stressé.
Ça peut vouloir dire que c'est qu'on est dans le noir et qu'on a peur. Parce que quand c'est du marron, et ben ça fait un peu penser quand on est dans le noir.
Ça veut dire être content, comme si on avait de l'amour. Peut-être parce que l'amour, c'est comme mouron.
La puce à l'oreille, ta 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 ta.
Alors, Julien Soulier, se faire du mouron, il y a des jolies idées.
Oui, c'est très joli. Alors, évidemment, il y en a une qui a trouvé, mais les autres sont magnifiques parce que quand on ne comprend pas forcément quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On se raccroche aux sonorités que ça nous évoque.
Cela dit, il y en a une qui a trouvé que l'expression se faire du mouron, ça voulait dire se faire du souci.
C'est ça.
Mais quant à l'origine de l'expression, même si c'était très joli, c'était pas exact. Elle parlait de la mort, de s'inquiéter.
à cause de la mort.
Oui, c'est joli, l'idée de s'inquiéter à mort, en fait, hein, jusqu'à voilà se ronger les sangs, se faire de la bile. Alors, on a d'autres métaphores un petit peu plus corporelles et anatomiques, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup se faire du mouron, qu'on utilise peut-être un peu moins aujourd'hui, qui représente un double mystère, à la fois, bon, le sens, peut-être, et puis le mot mouron, cette espèce de
comment
mot
il s'écrit ce mot, alors joli.
Alors, il s'écrit tout simplement comme il se prononce, M-O-U-R-O-N.
Et non pas le mou, comme disaient les enfants.
Non, non pas un mou qui serait rond, ou que sais-je. Et,
qu'est-ce que c'est que ce mouron, alors?
Alors, ce mouron, c'est une origine botanique, ça vient d'un terme néerlandais dont lui-même on ne sait pas trop quelle est son étymologie, et en fait ça désigne une petite plante herbacée qui est commune dans les champs et dans les jardins. Voilà.
Le muer.
C'est ça, qui a été emprunté au néerlandais. Et alors, on se dit, mais quel rapport avec une plante, avec du mouron, du souci? Enfin, alors là, c'est un peu tortueux, hein. Il faut passer par une métaphore argotique. Il faut savoir que l'argot, c'est une langue merveilleuse, parce qu'il y a énormément de métaphores très imaginatives, de jeux de mots. Et là, effectivement, il faut passer par une espèce de métaphore ou de ressemblance. On a une plante qui s'appelle le mouron blanc ou le mouron de petits oiseaux, dont les graines sont données en nourriture aux animaux. Et puis, en argot, par ressemblance, sans doute de la plante, les mourons, ça désignait les cheveux. Et donc, en argot, on disait à un moment donné...
Ouais, la touffe.
C'est ça.
La touffe d'herbe, la touffe de
exactement.
Cheveux. Quoi.
Ne plus avoir de mouron sur la cage, qui serait un peu l'équivalent aujourd'hui de ne plus avoir un poil sur le caillou, c'est-à-dire être complètement chauve.
Ou se faire des cheveux blancs comme le mouron blanc.
Exactement. Et ensuite, à partir de cette expression, le mouron blanc, eh bien, l'argot a pris l'expression se faire des cheveux blancs et a juste substitué mouron à cheveux. Et on s'est retrouvé avec... se faire du mouron à la place de se faire des cheveux, qui, elle, comme expression, désignait bien le fait de s'inquiéter, de se faire du souci.
Sauf que le blanc a disparu, en fait.
Le blanc a disparu, mais on disait déjà se faire des cheveux blancs, se faire des cheveux tout court. Mm-hmm. Donc il a juste suffi d'enlever cheveux et de mettre ce mouron qui ressemblait peut-être à des cheveux à la place, et on se retrouvait avec cette expression, se faire du mouron.
Sauf que là, on est beaucoup plus tard.
C'est
on
beaucoup
est...
plus récent, c'est milieu 20e siècle.
Milieu 20e
donc,
siècle.
Donc c'est pas très très ancien.
Donc, se faire du mouron, se faire du souci, on se fait des cheveux blancs, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre?
Se ronger les sangs, se faire des cheveux blancs.
Se faire de la bile.
Se faire du mauvais sang. Il y a souvent, ce que je disais tout à l'heure, une idée corporelle, hein, les fluides, etc. Enfin,
se mettre la rate au courbouillon.
Une fois encore le...
J'adore celle-là.
Aussi,
se prendre la tête, se faire un sang d'encre.
Oui, se prendre dans le chou aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu plus familier,
bon,
un petit peu
reste...
plus récent.
Il y en a plein en fait. C'est dire comme, oui, bah, comme on est sujet à la prise de tête.
Exactement, à l'inquiétude, aux soucis, etc.
En Espagne, on se fait des cheveux blancs, mais on se fait aussi des cheveux verts.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est les cheveux verts parce que c'est vert comme la touffe d'herbe?
Peut-être.
On se mange sa propre tête quand en Italie, on s'empoisonne le sang, ce qui revient un petit peu au même que se faire un sang d'encre.
Exactement,
en fait.
Ou se faire du mauvais sang.
Mmh. Absolument. Inutile de vous faire du mouron, chers auditeurs. Vous pourrez retrouver Julien Soulier dès la semaine prochaine dans une autre puce. Vous pouvez aussi vous procurer son dernier ouvrage, Baillé aux corneilles et 99 autres expressions qu'on n'a jamais vraiment comprises, paru chez First. Vous pouvez également retrouver cette puce sur le site de RFI Savoir ainsi que sur la page Facebook de l'émission De Vive Voix. À très bientôt, Julien Soulier.
À très bientôt.
Merci à tous les deux. Alors, ce qui est formidable dans l'argot, je trouve, c'est sa plasticité, parce que finalement, on peut ne pas comprendre l'argot, mais on ressent quelque chose, on arrive à imaginer ce que veut dire le mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christophe Bruchon?
Tout à fait, c'est la qualité phonique de l'argot, sa qualité poétique, qui fait que effectivement les sonorités concourent au sens, et que l'argot travaille beaucoup, au fond, sur les onomatopées, et donc cherche à rémunérer le défaut de la langue, comme disait Mallarmé, en travaillant l'imitation par les sons.
Et quand je vous demandais est-ce que l'argot c'est du français, ce serait le français qu'on ne comprend pas tout à fait, qui nous échappe un peu, qui a ses zones d'obscurité. C'est en cela que je trouve l'argot absolument réjouissant et votre livre tout à fait réjouissant. Est-ce que vous allez continuer à traduire les fables de La Fontaine ou d'autres auteurs historiques? Est-ce qu'on pourrait traduire par exemple Sonia Perbal, Proust en argot?
Je crois que je ne m'y aventurerai pas.
Mais on pourrait.
Oui, ça prendra beaucoup de temps.
Ça prendra beaucoup de temps. Écoutez, on a la vie devant nous. Sonia Perbal, Christophe Brichand, merci beaucoup. La Cocotte au Golden Coco, c'est donc, vous l'avez compris, une édition bilingue publiée aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À très vite.
Sept milliards de voix.